franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, 5 nouvelles espèces protégées trouvées sur le site du futur, peut-être, aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Vous avez entendu parler du petit campagnol, le campagnol amphibie. Sur Notre-Dame-des-Landes, on retrouve une densité et une présence de cette espèce qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le département et ni même en France. C'est le cas aussi des tritons, ils ont fait parler d'eux. Les grandes espèces de tritons, notamment triton marbré, triton crêté, triton de Blasius, sont en densité énorme.
Et c'est un extrait de la présentation faite jeudi à la presse par le collectif Les Naturalistes en Lutte, dont vous êtes le porte-parole, François de Beaulieu. Bonjour, vous êtes en ligne avec nous et à mes côtés en studio se trouve comme tous les lundis Hervé Kempf pour le site reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
François de Beaulieu, pendant 3 ans, un dimanche sur 2, vous avez traqué, inventorié toutes les espèces animales et végétales présentes dans la zone humide de Notre-Dame-des-Landes, donc fameuse aujourd'hui pour son... peut-être futur aéroport, on le verra. Une contre-expertise en tout cas qui s'est avérée fructueuse puisque vous dénombrez plus de 1500 espèces, dont 5 protégées qui n'avaient pas pour l'instant du tout été prises en compte par les dossiers réglementaires, François de Beaulieu.
Oui, au total, il y a plus de 130 espèces protégées sur la ZAD et on ne vient pas de trouver les 5 nouvelles espèces oubliées par les bureaux d'études, simplement on vient de se faire entendre à ce sujet. On avait même écrit au préfet il y a déjà plus d'un an pour les lui signaler, mais ça ne lui a fait ni chaud ni froid apparemment.
Quelles espèces alors est-ce que vous avez resignalé donc du coup ?
Alors les espèces, il y a 3 espèces végétales. La cithorbe d'Europe, par exemple, la cicindie, naine, la pulicaire annuelle, et la musaraigne aquatique, dont on savait qu'elle était potentielle, mais elle n'avait pas été vue, nous on l'a vue. Mm-hmm. Le triton de Blasius, qui est quand même un grand triton, c'est même le plus grand de la bande, il fait plus de 18 cm, on en a trouvé un qui faisait 18 cm
ah oui, de long. C'est du beau triton.
C'est des beaux tritons, et en plus... on pouvait bien deviner qu'ils étaient là, puisque c'est un hybride du triton marbré et du triton crêté, et qu'il y avait les 2 autres espèces qui étaient présentes. Nous, on l'a repéré dans 8 mares, mais il est sûrement dans beaucoup d'autres, et c'est quand même incroyable que les bureaux d'études ne l'aient pas vu.
François de Beaulieu, qu'est-ce que signifie exactement le terme « espèce protégée » dans le cas de ces 5 espèces ?
Eh bien, ça veut dire qu'elles sont protégées dans le cadre de la loi de protection de la nature de 1974 et elles, chacune d'elles, en fonction d'un arrêté qui pour certaines ont été pris en 1993, d'autres même en 2007, c'est pas ancien, mais qu'on n'a pas le droit de les détruire, de les déplacer sans autorisation. Donc pour qu'il y ait la possibilité de le faire, il faut que le préfet prenne un arrêté après avoir suivi une procédure qui, en particulier, prévoit de consulter le Conseil national de protection de la nature. Alors, en l'occurrence, ça n'a pas été fait pour ces 5 espèces.
Et justement, Hervé Kempf, que vaut cette contre-expertise face à l'expertise qui avait déjà été menée ?
Ce qu'elle vaut, c'est que d'abord, elle est faite par des professionnels, il y a aussi des scientifiques amateurs au sein des naturalistes, mais ce sont des naturalistes, des botanistes, des biologistes, des spécialistes des mammifères ou des amphibiens. Ils ont passé plus de temps aussi, peut-être, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils ont fait plusieurs campagnes, ils sont venus parfois tous les dimanches ou tous les 15 jours, ils ont fait un inventaire beaucoup plus complet que des bureaux d'études qui étaient commandités par les promoteurs de l'aéroport, qui avaient déjà un conflit d'intérêt, il faut bien le dire, et qui par ailleurs passent moins de temps, par exemple pas aux bonnes saisons, etc. Et donc le travail des naturalistes en lutte est tout à fait intéressant, il devrait être confirmé évidemment par d'autres spécialistes, mais il témoigne d'un suivi, d'une régularité dans le travail qui est tout à fait intéressant.
François de Beaulieu, en termes de biodiversité justement, qu'est-ce que ça représente les 1800 hectares supposés accueillir l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ?
Ben là, en l'occurrence, quelque chose d'unique à l'échelle du massif armoricain, c'est un bocage préservé sur une zone humide de très grande qualité. Et au départ, tout le monde croyait que c'était un milieu banal, et en fait, c'est un milieu très original qui permet à la fois à des paysans de travailler, et c'est pour ça qu'il est essentiel de maintenir ceux qui vivent pour certains depuis 5 générations là-dessus, et de l'autre côté, d'avoir cet ensemble qui fonctionne bien.
Quelles sont les mesures de protection prévues, qu'on appelle mesures compensatoires, qui étaient prévues pour l'instant ?
Alors, c'est une arnaque complète, puisque le bureau d'études Biotope a proposé une méthode expérimentale qui reposait donc d'une part sur des inventaires qui sont incomplets, comme nous le montrons, et d'autre part sur des coefficients qui sont affectés de manière tout à fait arbitraire, comme l'ont montré les experts internationaux qui avaient été nommés par le préfet lui-même, pour, avec ces coefficients, arriver à une espèce de total d'un certain nombre de points qui sont ensuite compensés par la création, par exemple, de prairies que l'on ne retournerait pas dans des exploitations agricoles intensives qui seraient, pour cela, aidées par des financements d'aéroports Grand Ouest.
Alors justement, Hervé Kempf, qu'est-ce que ça peut signifier pour ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, cet inventaire d'espèces? Ça peut stopper complètement le projet ou pas?
Légalement, bizarrement, non. C'est-à-dire que les
avis... on sait qu'il y a des espèces qui ont stoppé la construction d'autoroutes, par exemple. Hein.
Oui, à condition que le tribunal administratif accepte les recours des associations.
Ouais.
Là, les recours des associations s'appuient essentiellement sur des avis consultatifs, qui sont là d'organismes tout à fait officiels. Il y a eu notamment le Conseil national de protection de la nature et le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité qui ont rendu des rapports extrêmement critiques sur le travail du cabinet Biotope qu'a cité Monsieur de Beaulieu, mais c'est des avis consultatifs, même si ces organes sont très importants. Et donc, le préfet a pu passer les arrêtés, le tribunal administratif a dit « c'est la loi, on continue ». Donc, ça rajoute quand même le travail qui vient d'être fait par les naturalistes en lutte, rajoute une pièce supplémentaire quand même à l'interrogation scientifique qu'on peut se poser sur ce projet d'aéroport. Et d'autant plus, je vous le rappelle, que nous sommes bientôt dans une atmosphère de travail sur la loi de la biodiversité qui est très importante de préserver la biodiversité.
Comment comptez-vous faire, François de Beaulieu, pour vous faire entendre? Parce que le défrichage devait commencer là en septembre, je crois, en janvier, pardon.
Bien, déjà, nous comptons nous faire entendre comme nous l'avons fait et comme nous allons le faire avec d'autres pour manifester. C'était samedi à Nantes. Ça va continuer avec des actions demain, après-demain, en raison de du fait que les agriculteurs risquent d'être expulsés par une décision du tribunal mercredi à Nantes. Et nous, on a écrit au préfet, on lui a envoyé des fiches très précises sur chacune de ces espèces avec leur localisation. La presse a pu même, pour une de ces espèces, la filmer, la photographier. C'est absolument indiscutable que ces espèces sont là et que si l'État veut nous parler par rapport à d'autres choses d'état de droit, il doit là faire respecter la loi absolument. Le travail a été mal fait au départ, maintenant, eh bien, respecter la loi, c'est faire le travail qui manquait.
Hervé, on peut juste signaler que c'est quand même un bel exemple de science participative hein, avec cette mobilisation et les résultats obtenus.
Tout à fait. Vous savez, il y a par exemple le Muséum d'Histoire Naturelle recourt souvent à des citoyens, par exemple pour faire des inventaires d'oiseaux. Eh bien là, c'est en quelque sorte une science participative à l'inverse, c'est-à-dire des scientifiques ont été faire du travail sur le terrain avec des citoyens, puisqu'il y a aussi souvent des visites publiques organisées par ces naturalistes et ces botanistes.
Vous avez un reportage de prévu sur reporter.net peut-être?
Dans quelques jours, on va publier, effectivement, on va faire une enquête un peu plus fouillée sur ce sujet très important en lien avec les problèmes de biodiversité.
Merci beaucoup François de Beaulieu.
Merci à vous.
Merci, bravo pour votre travail. Merci Axel.
À demain
on
Mathieu.
Se retrouve demain. À bientôt Hervé, on se retrouve lundi prochain bien sûr avec Reporter. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un mythe scientifique vient de voler en éclats puisque justement les chercheurs ont découvert que notre corps ne contient pas 10 fois plus de microbes que de cellules, contrairement à ce que l'on pensait, mais sensiblement le même nombre. C'est ce que révèlent des chercheurs canadiens et israéliens qui ont réussi à réestimer ce chiffre à partir d'analyses ADN et d'images d'IRM. Ainsi, l'organisme d'un homme de 25 ans, mesurant 1m70, pesant 70 kg, est constitué de 30 milliards de cellules humaines et de 39 milliards de bactéries. Des éruptions volcaniques sur les parois de la grotte Chauvet, voici l'hypothèse d'une équipe française qui s'appuie sur la représentation de gerbes rouges qui auraient été tracées il y a 36 000 ans par les premiers hommes occupant la caverne, au même moment justement où les volcans étaient actifs dans le Vivarais tout proche. Pour vérifier que ces gerbes dessinées remontaient bien à la même période, ils ont réussi à les dater précisément grâce au carbone 14. Et puis enfin, cultiver de la pomme de terre sur la planète rouge, comme le fait Mark Watney dans Seul sur Mars, voilà l'idée très sérieuse que veut étudier la NASA avec le Centre international de la pomme de terre. Elle va tenter fin janvier de faire pousser le tubercule dans un laboratoire à Lima, au Pérou, reproduisant les conditions atmosphériques, la température, la gravité, le sol et le niveau de radiation de la planète martienne. 9 variétés de pommes de terre sélectionnées seront cultivées dans 80 kilos de terre du désert de la Roya. Ce sol aride est connu pour présenter des caractéristiques similaires à celles du sol martien. Premier résultat attendu en mars prochain, justement.